Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est Côté Club, le magazine de toute la scène française et plus si affinité, basé au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Nous sommes en direct avec nos deux invités ce soir, Olivier Garnier de Cabazzi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et Arnaud Dumatin d'Institut.
Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Cabazzi, le retour avec un nouvel album, c'est le quatrième, Burrus, du nom du psychologue américain Burrus Frederick Skinner. Album concept augmenté de 6 vidéos dystopiques, assez flippantes, il faut le dire. Au programme Nouvelles Technologies, Aliénation aux réseaux sociaux, Narcissisme virtuel, la vie de Marion Guilbeault.
Tout à fait.
Institut, c'est encore une autre histoire. Troisième album, le titre est Waouh. L'effet Waouh des zones côtières, j'adore le titre. Au programme, Aliénation de l'individu, plaisir distanciel, livraison à domicile, technologie de surveillance avancée, état d'urgence sanitaire avec un mot d'ordre, prenez soin de vous. Marion ?
Eh bien, elle baigne dans l'utopie californienne. Spiltab, une franco-coréenne, elle adore les animaux et le lait d'avoine. Et sa musique est une des bonnes surprises de ce début de printemps. Elle sera en ligne avec nous vers 22h30.
C'est son signe particulier, elle adore les
Exactement.
Animaux et le lait d'avoine.
Moi, je trouve ça hyper positif.
C'est super. Voilà, vous savez tout, ou presque. Alors maintenant, on entend tout. Bienvenue au club.
Côté club, Laurent Goumard. Sur France Inter.
Et on ouvre avec le nouveau single de Laura Cahen, La Jetée, un titre très Chris Marker, extrait de son deuxième album prévu pour le 7 mai prochain. Laura Cahen, que vous aviez repéré dans la playlist de France Inter, Olivier Garnier.
Oui, c'est exact. On l'a rencontrée, on la suit. Là, en plus, c'est super qu'elle se soit associée à Dan Levy.
Exactement, Zodo, ouais.
Pour la prod de
son album.
Et on est pressé que l'album sorte. Ah, le 7 mai, je crois.
Ouais, c'est ça, le 7 mai prochain. Une fille sortira. Ah, c'est elle.
Calme la mer, efface-la. Ça abîme, mais
rien à jeter sur ce titre. Bienvenue à Radio Monte Carlo pour une... pour une blague aussi pourrie. Olivier Garnier de Kabadzi, groupe créé en 2009. Arnaud Dumatin du groupe Institut, premier album en 2012. Alors nous, on vous connaît, on vous suit depuis quelques années. Mais vous, est-ce que vous vous connaissez ?
Non, moi je ne connaissais pas Institut avant cet après-midi.
Et vous avez bien révisé alors.
Et, vous savez et tout. En plus, on a pu discuter
juste avant la loge.
Donc ça, c'est bien.
Et alors, est-ce qu'Institut connaissait Kabadzi ?
Tout à fait, j'ai eu l'occasion de parcourir leur projet autour de Bertrand Blier.
Oui, c'était le précédent album.
Voilà, qui m'avait interpellé, il y a 4 ans, je crois.
Ouais, 3-4 ans, ouais.
Ouais, c'était un album bizarre, on va en parler tout à l'heure. Alors, des groupes avec des identités fortes. Au départ, c'est une compagnie de nouveaux cirques pour Kabadzi. Les premiers essais musicaux, une maquette qui s'appelait Émeute de souffle. Et c'était en lien avec un spectacle titré 13e à table. Ça consistait en quoi? Juste pour qu'on visualise un petit peu à quoi pouvait bien ressembler cette compagnie de danse hip-hop et de cirque contemporain.
Ouais,
parce que c'était ça.
C'était ça. En gros, c'était deux danseurs hip-hop, manipulateurs d'objets, équilibristes. Accompagné de moi et Victo.
Musicien.
Voilà, musicien. Et nous deux, on faisait surtout... Moi, je faisais le texte. Voilà.
Ah,
c'était une sorte de truc un peu rappé avec un flow. Et Victo faisait le beatbox. Et on s'est rencontrés comme ça, via ce spectacle.
Et alors, comment vous êtes passé du côté de la musique ?
Obscur de la force. c'est tout simplement, il y a un de nous, un des artistes, qui est parti chez le Cirque Éloise au Canada.
Ah oui, d'accord.
Un gros cirque, quoi. Donc, on n'était pas concurrentiel à cette époque, voilà. Et donc, du coup, on s'est décidé, je crois, en 2010
à bifurquer,
à tout revendre. Et puis, cette maquette est tombée dans les mains de gens à Radio France aussi.
Ah ouais,
France Inter, France Inter. Et on a commencé la musique un peu par accident, comme ça.
Institut, premier album en 2012. Le titre, c'était « Ils étaient tombés amoureux instantanément ». Alors, c'était publié au départ dans une revue littéraire, Rouge Déclic. « Ils étaient tombés amoureux instantanément et trouvèrent ensemble un modèle économique approprié ». Alors, avec une telle phrase, on est entre Houellebecq et puis Georges Perec, période... les choses, on va dire. L'ADN était littéraire au départ.
Oui, c'est vrai que ça. J'ai une culture assez littéraire que je peux revendiquer dans ces chansons, bien sûr.
J'espère. Oui. Mais même dans le reste, non, parce que c'est encore très.
Oui, il y a une filiation entre le premier album et celui-ci.
Mais pourquoi fallait-il publier au départ le disque dans une revue littéraire ? Alors, vous pensiez pas que ça pouvait être possible sur un label ?
Alors, on a créé cette revue littéraire en 2009.
Ouais.
Donc on a publié 7 numéros. Et on a décidé ensuite d'arrêter donc de publier des revues et de s'attaquer à la chanson. Et donc on a édité le premier album d'Institut et aujourd'hui on continue cette aventure puisque le troisième album est à nouveau paru sur Rouge Déclic. Après une parenthèse sur le deuxième qui était sorti sur un album canadien. Et là on a finalement trouvé que c'était un bon chemin pour nous puisque ça nous permet d'être totalement indépendants et de maîtriser un peu comme Kabadzi d'ailleurs, on en a parlé aussi tout à l'heure. Et
ouais.
D'avoir une vraie indépendance dans la production.
Parce que vous avez ça en commun, l'autopromotion, oui.
Autoproduction, autopromotion,
mais ça vient aussi du cirque, hein, du cirque contemporain.
Ouais,
on sait comment on bâtit ses tournées, on sait comment on bâtit ses spectacles. Avec quel type de musique vous êtes construit chacun? Vous, Olivier?
Tous les deux, on s'est rencontrés vraiment autour du hip-hop avec Victo.
D'accord.
Et du hip-hop du début des années 2000.
NTM, IAM.
Non, plutôt américain. Et c'était un label qui s'appelait Anticon. Bon, ça parle peut-être pas à beaucoup de gens 20 ans plus tard, mais où il y avait des gens comme Doz One, Buck65, et c'était un peu les premiers à l'époque dans le monde à faire un sorte de hip-hop très léger, accompagné souvent d'instruments acoustiques, avec des rythmiques plutôt cool et pas boom-bap. Et nous, on n'était pas trop boom-bap à l'époque. Et voilà, après, on a découvert des groupes en France comme Non-Stop, les petits-fils de Diabologum un peu. Pareil, début des années 2000. Et c'est tout ce son-là qui nous a formés avec Victo. Ouais.
C'est marrant parce que Diabologum, ça vous rappelle quelque chose, j'imagine, Arnaud,
oui,
du matin.
Exactement, d'ailleurs, on était sur le même label.
Sur le même label pour Emma, qui était votre groupe à l'époque, label nantais.
Label nantais, effectivement, Lithium.
Lithium, créé, avec Dominica, Diabologum, Mendelssohn.
Oui, programme, tout un ensemble de groupe. Et d'ailleurs, il y a un ouvrage qui se prépare et qui sortira au mois de mai, qui racontera l'histoire de Lithium.
Ah, ben on va noter ça.
On va noter ça, la programmation, Marion.
Rédigé par Renaud Sachet.
Et vous alors?
Alors moi, je me reconnais en tout cas dans certains des artistes qu'a pu citer Olivier, notamment Buck65, que j'ai beaucoup écouté, d'ailleurs que j'ai réécouté il y a encore quelques semaines. Et effectivement, je trouve qu'en termes d'instrumentation, c'est vraiment génial. On sort du format hip-hop. Enfin, on est dans le hip-hop, mais il y a un vrai travail d'arrangement. C'est extrêmement riche. Et je trouve qu'il a une voix assez incroyable aussi. Et sur scène, très fort. Alors moi, je viens pas particulièrement de cette culture. En revanche, j'ai beaucoup écouté de New Wave, et après de rock indépendant américain. J'écoute encore et j'ai toujours écouté des artistes comme Nick Cave, par exemple. Donc ça, c'est vraiment ma culture musicale, beaucoup plus anglophone que francophone.
Alors pour les auditeurs qui se demanderaient qu'est-ce qui se passe avec le son, c'est le crissement de la barbe sur le masque. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai absolument pas de masque.
Dis donc,
on va le mettre pendant la chanson qui va arriver dans quelques instants. Oui, c'est vrai, j'ai complètement zappé les choses. Il ne faut pas faire ce que je suis en train de faire. Je vais vous proposer deux sons liés à deux films. Chacun va choisir le sien. Premier son. Qui veut de ce son, Olivier, Arnaud?
Francis Lai.
Oui,
bien sûr.
Vous aimez?
Ah, j'adore Francis Lai. Oui. Il se trouve que je m'occupe également du Festival de La Rochelle et qu'on a invité Francis Lai il y a quelques années. On avait organisé un concert d'ailleurs autour des musiques de Francis Lai. C'était, je pense, une des rares fois où il est apparu sur scène. C'était très émouvant.
Qu'est-ce que vous trouvez dans cette musique-là? Ça, c'est la BO de Bilitis.
Oui, c'est des choses que j'ai.
C'est votre enfance.
C'est mon enfance. Même pas une enfance un peu décadente.
Très décadente.
Non, mais c'est des choses que j'ai écoutées plus tard. Mais pour moi, Francis Lai, c'est aussi la musique du cinéma minuit. C'est les étoiles du cinéma, pardon.
Exactement. Ouais. Voilà. Autre son. Donc, ce sera pour vous, Olivier.
Ouais, ce sera pour moi. Je suis prêt.
Qu'est-ce que tu fous dans cette tour? Tu poses des micros?
Mais je suis locataire.
Ah oui, depuis quand?
Aujourd'hui, je viens d'emménager.
Bah, tu vas déménager.
Mais pourquoi?
Parce qu'on te le dit.
Je suis un artiste. Je suis un musicien. Je suis troisième violon à l'opéra.
Qu'est-ce que t'as dit? Mettez-lui les menottes.
Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait?
Il n'y aura pas de violoniste dans cette tour. C'est une tour interdite aux musiciens. C'est une tour sans gamme et sans arpège.
Ça fait chaque fois son effet.
Buffet froid, bah ouais, forcément.
Buffet froid, même si je sais que vous êtes plus tenu de soirée.
Ah, j'adore
les valseuses.
Buffet froid,
c'est excellent.
Je suis passé en plus par la gare RER de la Défense.
Ah bah oui, vous
et
étiez en plein dedans.
Dans le film. Bah ouais, c'est merveilleux.
Quelle était l'idée donc alors c'est en rapport bien sûr avec cet album dont vous parliez tout à l'heure, Arnaud, cet album consacré bien aux musiques et puis bien sûr aux textes des films de Bertrand Blier. Pourquoi fallait-il en passer par là pour le troisième album?
Mais c'est une rencontre, c'est vraiment une rencontre, un après-midi où on se retrouve dans le salon de Bertrand Blier. On échange, on parle,
mais
ça dure longtemps.
Comment on se retrouve dans le salon
Bertrand Blier? Moi, je ne me retrouve jamais dans le salon de Bertrand Blier.
L'histoire est très compliquée et beaucoup trop intime et personnelle, mais on se retrouve dans ce salon.
Ouais.
Et donc, du coup, on parle, on échange. Et là, il y a un lien d'amitié étrange qui se crée, parce que pourquoi? Et on fait un premier morceau, du coup, avec ses textes. On lui propose déjà. On le questionne d'abord. Est-ce qu'on peut emprunter vos textes, les déformer, les adapter pour en faire des morceaux plutôt à l'âme hip-hop? Il dit oui, voilà, à la Bertrand Blier. Et on revient un mois plus tard avec un premier morceau qui s'appelle Bouche.
Il vous dit non?
Si, il adore.
Ah.
Il adore le morceau. Il adore le morceau, donc là on reparle deux heures. Et le petit manège a duré sur 12 morceaux pendant à peu près un an et demi, où on est revenu tous les mois discuter avec lui, échanger. Et à chaque fois, ça nourrissait en plus notre création sur l'album. Donc ouais, c'était un super super moment de vie, super moment de création et de partage avec Bertrand Blier. Ouais.
Alors aujourd'hui, vous vous êtes retrouvé, eh ben, le groupe initial, donc Kabadzi. Vous avez sorti déjà trois clips extraits de ce nouvel album. L'ambiance est très Black Mirror, ça rejoint le propos du disque. On va y revenir sur la complexité de nos relations avec la technologie. On va écouter tout de suite Mélanco. Un mot sur ce titre pour le présenter peut-être, Olivier?
C'est le titre qui ouvre l'album et qui peut peut-être résumer aussi cette ambiance de l'année 2020. Un petit côté quand même mélancolique. Au fond de la gorge, quoi.
Avec un clip particulièrement flippant.
C'est parce que vous êtes chiant que je m'invente une vie. Je m'ennuie avec les gens trop beaux, je t'ai dit. Apparemment, tu m'as fait mal à vie. neige c'est leur anneque, j'ai qu'un ami. Mélancolie, mélancolie. Mélancolie, mélancolie. Je n'ai plus la gaule, les jours de fête, j'ai trop de pardon dans mon programme. J'aurais dû naître déterminé, tant l'autre joue trop pour mon âme. Et nique sa mère, timidité. On me donne médaille que quand t'aboies, je saurais jamais où je finirai. C'est sur la vie, à plus d'imagination que moi. Rétroviseur comme maladie, faudrait que j'arrête la nostalgie. Mélancolie, mélancolie, j'ai un problème avec la norme comme un connard. Bosser tout le temps pour espérer maison de banlieue et la bagnole garée devant. Mélancolie, mélancolie, c'est parce que vous êtes chiant que je m'invente une nuit. Je m'ennuie avec les gens trop beaux, j't'ai dit. Mélancolie, mélancolie. Apparemment, tu m'as fait mal à vie. Neige et l'air annexe, j'ai qu'un ami. Mélancolie, mélancolie. Mélancolie, mélancolie. Mélancolie, mélancolie. Y'a plus personne dans toutes nos têtes, on nous prévient depuis 50 ans, tu tombes dedans. C'était trop bête pour la planète, ça ira mieux le jour où t'arrêteras de vouloir vivre dans une pub. Oui, c'est tentant, c'est leur travail, on se parle mal, on se regarde mal. Comment ça tient, comment ça marche, je tourne en rond, mais c'est pour quand le vrai pétage de plomb. Mélancolie, mélancolie, jamais le passé ne fait crédit. Je veux plus entendre au bon vieux temps, vas-y, dis-le si c'était mieux avant, vas-y, saute maintenant. Mélancolie, mélancolie, c'est parce que vous êtes chiant que je m'invente une vie. Je m'ennuie avec les gens trop beaux, j't'ai mélancolie, mélancolie. Apparemment tu m'as fait mal à vie. Neige et l'air annexe, j'ai qu'un ami. Mélancolie, 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 mélancolie. Mélancolie, mélancolie.
Mélanco, extrait de ce nouvel album, le quatrième, signé Kabadzi. Titre de l'album, Burrus. Est-ce que vous connaissez ce Burrus, Arnaud Dumatin?
Non, je ne le connais pas.
Alors vous allez le présenter, Olivier Garnier.
Il s'agit de Burrus Frederick Skinner, un comportementaliste américain qui, dans les années 30 à Harvard, a mis en place une théorie qui s'appelle la théorie de Skinner, avec un outil qui s'appelle la boîte de Skinner, dans laquelle on enferme des rats ou des pigeons. Dans cette boîte, il y a un petit levier, et ce petit levier permet aux rats ou aux pigeons de se nourrir. Dès qu'ils appuient une fois sur le levier, ils ont une croquette.
D'accord.
Jusqu'ici, tout va bien.
Ouais.
Sauf que là, Skinner se dit, il faut qu'on complique un peu la chose. Et il va mettre sur la table le phénomène, le biais comportemental de la récompense aléatoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont appuyer, parfois il va leur donner une croquette et parfois il va rien leur donner. Et ça, ça fabrique des pigeons et des rats complètement fous, complètement addicts, qui vont taper sur le levier toute la journée, non-stop, des heures et des heures d'affilée, jusqu'à en mourir. Et c'est le phénomène qui est utilisé par les casinos, c'est-à-dire une machine à sous, c'est exactement le même phénomène,
Bien sûr.
Biais comportemental qu'on subit. Et plus tard, dans les années 90, il meurt en 90.
Il meurt en 90, c'est intéressant.
Et pile poil en 90, c'est la naissance d'Internet et plus tard donc des réseaux sociaux qui vont passer leur temps dans leur design d'application à utiliser toutes les théories de Skinner pour rendre l'humain addict à l'application, qui a besoin d'une addiction pour vivre, vu qu'elle vend de la pub et que sa richesse c'est uniquement son temps d'exploitation par l'utilisateur. Il faut qu'elle soit addicte, la personne qui utilise le réseau social, quoi.
Alors en quoi ce Burrus a pu devenir le sujet, l'objet, le centre de cet album concept?
On n'a pas décidé comme sur le Xblier de faire un disque sur Skinner. C'est qu'on a fait 3-4 morceaux au début. On voit ces 3-4 morceaux, on se dit « Ah, ils sont cool ces morceaux, ils vont être dans un disque ». On les relit, on les réanalyse et tous parlent de mise en scène sur les réseaux sociaux, parlent du besoin permanent de se représenter. Et l'un des premiers morceaux, c'est Mélanco.
C'est Mélanco,
voilà,
oui.
Voilà, il y a une phrase qui dit « Je m'ennuie avec les gens trop beaux, je t'ai dit ». Le « je m'ennuie avec les gens trop beaux », c'est tous ces gens sur l'écran qu'on trouve toujours trop beaux. Et après, on va se coucher et on se dit qu'on ne vaut rien, quoi. Voilà, donc c'est parti un peu de là. Et on tombe sur un bouquin qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge ». Un bouquin de Bruno Patino.
De Bruno Patino, qui est l'actuel directeur d'Arte, qui était directeur de France Culture ici,
voilà.
De France 5 à l'époque, oui.
Super livre.
Ah bah super livre.
Il faut que tout le monde le lise. Et c'est pas vraiment sur les applis, c'est sur le marché de l'attention. C'est justement sur le fait de comprendre comment les applis sont designées pour qu'on y passe le plus de temps possible, pour qu'elle soit rentable, et sur quels biais comportementaux elle joue pour les rendre pérennes financièrement, en fait. Et à partir de là, comment ça va changer, nous, nos comportements sociaux, nos comportements de rencontre, etc., etc. Et quand on tombe sur ce bouquin, on se dit « waouh ». Et c'est là qu'on découvre Burrhus Frederick Skinner.
Vous pouvez pas dire « waouh » parce que ça s'est pris dans le titre de Arnaud pour l'Institut.
Donc c'est pas la peine.
« Waouh » est un mot interdit pour l'instant.
Déposé.
Droit d'auteur. Oui, vous vouliez intervenir sur ça aussi.
Non, effectivement, j'ai lu ce livre de Bruno Pacino et il m'avait aussi beaucoup interpellé. Donc c'est sorti il y a 2 ans, je crois.
Ouais, c'est ça.
Donc je me reconnais dans ces problématiques que vous développez aussi dans vos chansons.
Mais d'ailleurs, qui sont aussi...
qui sont proches des nôtres.
Qui justement. Sont proches des vôtres. Mais vous le traitez, vous, d'une autre façon. On va y revenir, justement. Chaque fois, il y a une volonté de coller véritablement à l'actualité, au contemporain, mais avec un autre regard du point de vue d'institut. Sur le plan musical, ça supposait quoi, justement?
Sur le plan musical, ça supposait l'épure. Je pense que c'est l'album où on en a mis le moins. Où chaque kick, enfin chaque grosse caisse, chaque caisse claire, chaque petite note de piano, il y a beaucoup de piano.
Ouais.
C'est le disque où on a joué le plus de piano. Chaque voix, on utilise toujours beaucoup les voix qu'on ressemble, qu'on déforme, etc., etc. Donc là, musicalement, c'était ça, avoir une esthétique la plus épurée possible, parce que on se disait aussi que Burrhus, c'est ça, c'est l'épure, enfin le tout ce qui touche au design d'appli et tout, c'est des trucs toujours très épurés. Et c'est l'épure aussi qui rend un peu addict. C'est cette sorte de... Il y a un seul truc qui nous attire et c'est ça qu'on a travaillé, quoi. Même dans les textes aussi.
Quelle est votre relation, vous, aux réseaux sociaux ?
Bah, elle est compliquée, elle est conflictuelle. C'est-à-dire qu'on en a besoin, nous,
en tant que musicien. On ne pouvait pas faire l'économie, oui.
En tant qu'humain, j'en suis victime à 300% aussi. Et donc, c'est toujours cette relation de haine attirance, quoi. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on a envie de voir ces trucs, ça nous nourrit. Et il y a un sorte de moment où ça nous a trop nourri et c'est pas à vomir, mais presque, quoi. Donc c'est, je pense, une relation qu'on vit tous avec les réseaux sociaux de haine, désir permanent, quoi.
Ça veut dire que la première chose que vous regardez en vous levant, c'est un réseau social?
Peut-être pas, j'allume la radio d'abord.
Ah,
et France Inter.
Oh, mais c'est parfait. Prenez note, il reviendra.
Et ensuite. Et franchement, dans la demi-heure qui suit, je pense que je suis sur un réseau social. C'est, je sais pas le. Ouais, il y a beaucoup de chance, ouais, quand même.
Et vous, Arnaud, du matin?
Oui, aussi. D'ailleurs, notre pochette exprime un peu cette forme d'aliénation, puisqu'on voit, parmi les personnages, on voit au premier plan une série de personnages qui brandissent leur téléphone portable de façon un peu absurde. Donc effectivement, je me reconnais, oui, dans cette dépendance aussi aux réseaux sociaux et plus globalement aux nouvelles technologies.
Olivier, avec Kabedzi, vous abordez depuis le début, on va dire, des sujets de société d'une manière assez frontale. Mais pour autant, on ne peut pas vraiment parler de groupe engagé au sens où on l'entend, par exemple quand on pensait à Noir Désir, ou à d'autres. Vous vous méfiez justement de cette étiquette ou de cette parole-là?
Ouais, moi c'est une étiquette que j'ai jamais assumée. En plus, en étant français, je trouve que c'est très facile d'être engagé en France, quoi. C'est-à-dire qu'on risque pas grand-chose. On le voit bien, en Russie, c'est pas la même, en Chine, c'est pas la même. Donc je sais pas, j'aime pas trop ce terme, j'aime pas peut-être militant, mais j'aime pas trop ce terme. Non, j'ai juste envie de... Moi j'ai toujours... envisager la musique comme un travail journalistique au final.
Documentaire.
Documentaire, ouais. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, ouais.
Vous tournez beaucoup à l'étranger. Enfin, là, pour l'instant, vous ne tournez pas du tout, mais
pas
vous
du
tournez
tout.
Beaucoup à l'étranger. Est-ce que c'est facile de tourner à l'étranger quand les textes sont en français?
C'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Nous, je sais qu'on adore. À chaque fois qu'on a fait des. On a beaucoup tourné en Amérique latine, par exemple. Et c'est super, parce que justement, il n'y a pas ce côté français d'analyser, de décortiquer, de savoir si le mot est bon. Même si, certes, on y a travaillé à ce que le mot soit bon. Mais des fois, il y a un sorte de truc, du coup, très musical, dans la pure musicalité. C'est-à-dire que les gens ressentent la musique sans avoir besoin de l'analyser et de la comprendre. Et ça, c'est super agréable comme sensation quand on est sur scène.
Ah oui, c'est pas du tout l'école Gainsbourg, Brel, Ferré, Barbara qui sont le texte avant tout et la musicalité ensuite.
Bah, évidemment.
Quand on est en France, il y a ça,
Y a
plus qu'à l'étranger.
Ouais.
Et Institut a beaucoup tourné à l'étranger?
Nous, on tourne assez peu, finalement. On n'est pas vraiment un groupe de scène. Et le fait qu'on ne puisse pas tourner aujourd'hui, finalement, ce n'est pas un handicap pour
nous.
Ah
oui, vous adorez ça, en fait. C'est parfait pour vous, quoi.
Pas réellement, mais en tout cas, ce n'est pas au détriment de notre musique. On a fait une vingtaine de dates sur le précédent album et
ça suffisait.
À peu près l'équivalent sur le premier. Oui, on pourrait tourner davantage, mais... en tout cas, c'est pas là où j'ai l'impression de m'exprimer le mieux.
Vous n'aimez pas dire « ça va Paris, je vous entends pas », c'est ça ? C'est quelque chose que vous ne pouvez pas dire. Je vous regardais, je me suis dit « je le vois mal dire « ça va Paris ».
En fait, pour la précédente tournée, d'ailleurs, on avait laissé les hommes politiques parler de notre place, puisqu'entre chaque morceau, on avait un extrait de discours d'hommes politiques, donc je sais pas, Pierre Manès France... voilà, François, Valéry Giscard d'Estaing, etc.
Ah oui, d'accord, je vois. Oui, ça peut créer une sorte de climat plus voilà. Anxiogène qu'autre chose. Alors que vous, ça va à Paris ou ça va à Buenos Aires, c'est parfait, non ?
Ben ouais, non, mais c'est bien. On aime bien le texte, on a un côté littéraire et on l'assume. Et par contre, on aime bien l'énergie du verre de bière, de la sueur, de la nuit.
Olivier Garnier et Arnaud Dumatin, vous restez avec nous. On va encore parler d'aliénation tout à l'heure avec Arnaud. Avant cela, on aura rendez-vous avec Marion Guilbault. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter Bonnie Banane. C'est votre choix playlist, Olivier Garnier.
Ouais, moi j'adore. Et Victo aussi, je le représente. Donc on l'a choisi
parce que vous êtes deux. Ouais.
Et on trouve qu'il y a une vraie, il y a une vraie inventivité chez Bonnie Banane avec un côté super musical. Je crois qu'elle vient du jazz. Et ça s'entend vachement.
Et sur scène, je peux vous dire que c'est vraiment une bête de scène. Nous, on l'a vu justement, on avait fait des concerts au Bataclan avec elle et avec Marion Guilbault. On était vraiment séchés sur sa prestation, son inventivité et sa capacité de prendre la parole sur scène. On écoute tout de suite Bonnie Banane.
Inter.
Et tout de suite, on quitte le studio 621 avec Marion Guilbault.
Direction Los Angeles avec un zoom sur un projet cosmopolite avec Claire du duo Spiltab, une franco-coréenne basée donc en Californie, tatoueuse à mi-temps, mais musicienne H24. Bonsoir Claire.
Bonsoir Marion, comment ça va ?
Très bien, bienvenue dans Côté Club avec Kabadzi Institute. Il est environ quoi ? Merci. 13h30 à Los Angeles ?
Oui, oui, donc je me réveillais à peu près 2-3 heures et je commence ma journée avec vous. Donc...
C'est cool, très bien.
Levé à 11h du matin, je vous félicite.
Exactement. C'est tout le style en fait.
C'est ça la Californie. Alors justement, quand vous vous levez, là, vous vous faites comme Arnaud du matin et comme Olivier Garnier, vous regardez les réseaux sociaux ?
Oui, donc... Non mais juste, j'ai goûté un peu et j'apprécie beaucoup juste... qu'on en parle un peu, que enfin il y a beaucoup d'anxiété en fait qui vient des réseaux sociaux, et je pense que on en commence à en parler, et enfin ça fait du bien juste de savoir que qu'on n'est pas seul un peu dans le truc.
Ouais. Ouais. On est tous un peu pareils, hein, face à eux, je crois.
Ah, exactement. Ouais.
Alors, Spiltab, si je traduis en français, ça donne languette de déversement. C'est exact.
Non, dirait du canadien.
Possible. Oh putain, j'ai jamais pensé en français, mais ouais. Donc en fait c'est juste en Amérique, c'est pour les bars, il y a une sorte de receipt où on garde tous les verres qui ont été renversés par les gens bourrés ou n'importe quoi, mais souvent c'est les gens qui travaillent au bar qui mettent les je suis désolée, mon français est pas, allez-y, il est pas super. Qui mettent les like the drinks that were spilled.
D'accord.
Sur the receipt of Spiltab. Donc c'est un peu, en fait, c'est juste une manière de donner des trucs gratuits à tes potes quand tu travailles dans un bar. Ah. Donc,
plutôt sympa. Donc Spiltab, c'est un projet bicéphale avec vous, Claire Chicha, à la voix, tous les instruments, vous jouez même du ukulélé, et David Marinelli à la production. Je me demandais comment vous travaillez tous les deux. Est-ce que vous êtes chacun dans une chambre avec échange de fichiers à la mode Covid, ou est-ce que vous partagez un studio ensemble?
Oui, donc David vient de déménager dans un nouveau studio, donc on est finalement on peut travailler ensemble dans la même chambre, et ça marche super. Mais pour longtemps, j'habitais à New York, donc on faisait les choses un peu genre bicostal. Mais finalement, on est dans la même cité, donc ça marche.
Alors, on va tout de suite mettre de la musique sur vos mots avec Calvaire. Hein. C'est une des chansons de votre premier EP, Haute Milk. Vous vous souvenez juste de l'enregistrement de ce titre ? Ça date un petit peu maintenant.
Oui, un peu. Donc, on l'a commencé fin 2019, mais ouais, c'est une de mes préférées en fait. Donc, je suis super contente. Ça me fait plaisir que vous la jouez.
Calvaire sur France Inter.
Quand tu m'exaspères, quand tu pars et tu me déserts, près de toi, je suis jamais fière. On finit toujours en guerre. Si je demande à ma mère son avis sur ce calvaire, tous tes mots qui me laissent amère, tes promesses tout éphémères. Ta maison rouge t'attend à mes naissances. C'est le monde à l'envers. T'es mon enfer avec tes commentaires. Avoue que c'est que pour nous. Les autres ont perdu l'espoir. Avoue que tu lâcherais tout pour moi. Ta maison rouge. T'attends à mes naissances après. Le toit qui coule. T'attends à mes, c'est ce que tu me dis.
Ça finit Cut Calvaire, signé Spiltab. C'est extrait de ce premier EP, Haute Milk, un EP avec des titres qui tournent tous autour de 2 minutes, hein, mieux que les Ramones. Format très très court, un côté patchwork, lo-fi. Claire, vous chantez en français mais aussi en anglais. Certainement pas les mêmes choses selon la langue. Est-ce que vous avez déjà essayé le coréen?
Donc j'ai quelqu'un qui m'a proposé de devenir K-pop star.
Et bien sûr.
Mais je pense que c'est pas trop pour moi, malheureusement. Mais j'espère que plus tard je pourrais apprendre un peu le coréen, que je puisse parler plus avec ma mère en coréen. Ce serait super.
Alors justement, vous êtes née à Bangkok, un père algérien, une mère coréenne. Oui. Vos parents, tous les deux, sont musiciens. Est-ce qu'ils vous ont encouragé, est-ce qu'ils vous ont mis la pression ou alors découragé de faire de la musique?
un peu les deux, je pense que, enfin, ma mère voulait sûrement que je devienne genre like a doctor ou avocat ou un truc comme ça, mais je pense que enfin dès le début j'aimais beaucoup la musique et elle est fière de moi finalement, donc ça marche.
On va se quitter, Claire, avec un autre titre de cette EP, c'est Cotton Candy. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson ?
Ah, donc, c'est une histoire de... on dit, like, unrequited love, d'un amour qui n'a pas été réciproqué.
Un amour à sens unique.
À sens unique.
C'est ça.
C'est les plus beaux. Vous ne serez jamais déçus.
Exactement.
Les bons conseils de Laurent Goumard.
Ouh, Docteur
Love. Docteur Love est avec nous. Merci. Merci Claire. À très bientôt.
Juste une
merci
question Claire.
À bientôt.
Juste une question oui. Claire. Si vous vous levez à 11h du matin, vous vous couchez à quelle heure?
Dis donc, pour tout savoir.
Bah à
3h
du matin.
Ah ben voilà, d'accord, non, tout va bien, c'est parfait.
Cotton Candy, c'est signé toujours Spiltab. À très bientôt, Claire.
Did we kiss 'cause it was dark? Or did we mean it was my embarrassment enough to make you see it? Your lips have made it tough to keep believing you were temporary talk to last just for a season. Hanging up the lights with the intensity and strife of your avoidance like a knife in my cotton candy side. I'm hoping for a fight in this imaginary vibe that I've caught and totemized to replace you when you hide. So did we kiss 'cause it's or did we meet? It was my embarrassment enough to make you see it. Your hands are made of tough to keep believing you were temporary talk to last just for a season.
Cotton Candy, c'est signé Spiltab. C'est un des titres de leur premier EP, Oat Milk. Dispo sur toutes les plateformes, ça va vous plaire, Olivier?
Ouais, ça me plaît vachement.
C'est pas mal.
Ouais, j'adore moi le mélange comme ça. Électro avec le petit truc de ukulélé au début.
Tu préfères un acouphène ou un contrôle fiscal? Tu préfères la vérité ou avoir une frange? Tu préfères être défiguré ou pauvre à vie?
Côté club.
Tu préfères le sens commun ou l'éjaculation précoce? Tu préfères avoir un zona ou un pentacou?
Sur France Inter.
Un zona plutôt qu'un pantacourt, si je me permets. Question fondamentale que vous posiez en 2016 dans le deuxième album d'Institut, Arnaud Dumatin. Le titre, c'était « Tu préfères courir ?»
Tu préfères courir dans le désert.
Voilà, c'est ça. Et il y avait l'autre possibilité. Vous aviez des éléments de réponse pour toutes ces questions ?
Ça, je vous laisse deviner. Non,
purement rhétorique. Institut, vous êtes trois, Nina Savary, Emmanuel Mario et vous, mais en période de mesures sanitaires. Un seul a droit à la parole. C'est une belle métaphore politique, ça.
Exactement, mais ça me convient.
Je peux imaginer, parce que c'est vous qui l'avez. Très bien. Troisième album au titre plus qu'intrigant, l'effet waouh des zones côtières. C'est le waouh qui m'intéresse. Ça arrive comment dans un titre pareil ?
Ça fait partie de tous ces termes que l'on utilise et qui arrivent dans le langage commun, en fait, sans qu'on s'en rende compte. Donc il y en a beaucoup d'ailleurs dans les textes d'Institut. Celui-ci en fait partie, mais il y en a d'autres. Et moi, j'ai un peu de mal avec justement ce waouh. Donc, c'est pour ça que j'ai tenté de le placer dans le titre. Et je trouvais que ça fonctionnait bien.
Finalement. Ça fonctionne bien.
Ça fonctionne bien en lien aussi avec le reste, avec la photo de la pochette, avec le titre du groupe.
Alors, c'est ça qui m'intéresse. Parce que bon, vous avez vraiment la science des titres. Déjà pour les autres, il y avait spécialiste mondial du retour d'affection en 2016. 4 ans plus tôt, c'était Ils étaient tombés amoureux instantanément. Ça, c'était pour le premier album. Chaque fois, c'est une phrase d'une chanson qu'on peut retrouver dans l'album. Mais qui arrive avant ou après la pochette? Quel est le lien, en fait, entre le titre et la pochette? Parce qu'on voit bien le sens du graphisme. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue avec l'image.
Alors, on travaille beaucoup avec le photographe qui est le même depuis le premier album, donc Élie Jorand. On discute, on se voit beaucoup, on court ensemble, et c'est là que l'on construit nos idées de pochette. Donc, ça a été le cas pour celle-ci. On a photographié la banlieue de Rennes, qui aujourd'hui a un visage totalement nouveau. En fait, moi, c'est une ville que j'ai beaucoup de mal à reconnaître, où j'ai grandi. Et quand j'y vais de moins en moins souvent, et quand j'y vais, j'avoue que je m'y sens de moins en moins à l'aise. C'est un phénomène d'uniformisation qui touche Rennes, mais qui touche bien sûr toutes les métropoles. Et donc c'est ça qui m'a intéressé dans le choix de ce paysage. Et ensuite on a composé donc un portrait de groupe comme ça a été le cas d'ailleurs pour les
autres pochettes. Tout à fait. Oui. C'est bizarre parce qu'on pourrait regarder toutes les pochettes comme une sorte d'exposition d'art contemporain parce qu'il y a vraiment un côté très plastique. C'est une photo plasticienne. Là on voit donc un groupe de dos face à une sorte de terril. C'est pas un terril mais bon. Une sorte de petit mont, et puis derrière, il y a des immeubles en construction de la banlieue de Rennes. Mais c'était à peu près la même configuration pour les autres pochettes. Vous n'avez jamais pensé, justement, je sais pas, à exposer et à faire, je sais pas, un concert dans l'exposition, quelque chose dans ce domaine-là?
Oui, sans doute, on est sans doute pas un groupe de SMAC, en effet. On aurait plutôt intérêt à sonder, peut-être les galeries d'art, en effet, ça serait peut-être plus pertinent à l'avenir.
Que d'aller, côtoyer la bière et la sueur sur les scènes de rock.
L'un n'empêche pas l'autre.
J'espère bien, oui.
Non, mais l'idée, c'est effectivement, on a une grande passion pour les univers périurbains, et donc il y a cette continuité d'une pochette à l'autre, ouais, donc pour une forme de solitude de groupe dans un univers périurbain.
Alors, avant d'entrer dans le troisième album, j'avais dit deuxième album, mais non, c'est le troisième album d'Institut, j'aimerais qu'on écoute un titre du premier album.
La nuit, je pense encore à Rachida Dati. Je lui tenais la tête sous l'eau en la prenant par surprise dans les toilettes des filles. Elle avait lu les grands classiques de la littérature hexagonale. Elle avait une mobilette motobécane customisée. La nuit, je pense souvent à Rachida Dati. Elle parlait d'une voix lente et égale pour aborder les sujets de fond. Les pensions de retraite et d'invalidité, les zones à forte densité urbaine qu'il faudrait réhabiliter.
Ça vous fait sourire, hein, Olivier Garnier?
Je m'aperçois que j'ai déjà entendu ce morceau.
Ah, mais bien sûr, et là, bah, les pensions de retraite, là, ça y est, tout revient.
Tout revient.
Donc, on pourrait recommencer l'émission. Vous connaissez Institut?
Complètement. J'ai déjà entendu ce morceau. Et c'est énorme.
Ah
c'est...
Ouais, un morceau énorme. Tout était déjà là. La voix, le talk-over, l'ironie cynique, la sophistication pop de la mélodie, parce que vous ne sacrifiez rien à la mélodie. Mais là, c'est pas évident. Il y avait aussi une tendance à l'afrobeat, mais qui est arrivée un peu plus tard quand même. C'est pas véritablement là qu'on peut l'écouter.
Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est-à-dire je rédige moi-même les communiqués de presse. Et donner des fausses pistes, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup.
C'est pour ça que vous dites afrobeat, parce que moi je ne l'ai pas du tout repéré là, donc c'est pour
non,
ça.
Non, il y a effectivement... Alors, je peux écouter occasionnellement de l'afrobeat, mais je ne pense pas qu'on le ressemble
beaucoup. C'est pour ça, c'est bien ce que je me dis. C'est bien ce que j'ai vu.
On a cherché Tony Allen, on ne l'a pas trouvé.
C'est très sous-mixé.
Mais alors, pourquoi fallait-il donner cette fausse information d'afrobeat?
En fait, ce qui m'intéresse...
Parce que ça revient dans les entretiens aussi.
Écoute vraiment l'album, et je m'aperçois d'ailleurs que
non.
Il y a un phénomène parfois de paresse, hein. C'est vrai que dans les chroniques que l'on peut avoir, alors moins en France, mais là on a fait appel à des attachés de presse au Canada par exemple, et souvent ils reprennent certains extraits du communiqué de presse.
Ah oui, texto, ouais.
Et pas toujours, alors ça, tout dépend dans quel contexte ça arrive, mais donc ça m'amuse.
Très bien. Troisième album aujourd'hui, il est écrit entre 2019 et 2020. Qu'est-ce qu'il doit à la période qu'on vit entre état d'urgence et mesures sanitaires? Vous qui faites depuis le début le constat, on va dire, ironique du capitalisme délirant, d'une modernité aliénante.
Cette période a nourri une partie de
l'album. Du pain béni pour vous, j'ai l'impression.
Vraiment, oui. Enfin, on a commencé à l'écrire donc il y a 3 ans, en effet. On a commencé à l'enregistrer en octobre 2019 et on devait le finir en mars 2020. Au moment du premier confinement, et ensuite j'ai profité de cette période d'enfermement pour écrire quelques chansons supplémentaires et pour réécrire aussi des bribes de texte des autres morceaux pour donner une forme de cohérence.
Avant Institut, il y a eu le groupe, on en parlait au début de l'émission, qui s'appelait Emma, que vous aviez créé en 94. Ça s'est terminé, je crois, en 2000, quelque chose
en 2000,
comme
oui,
ça.
Oui.
Il y a eu 2 albums sur le label Lithium, on en parlait, un label nantais qui avait une sorte de label de rock indépendant, qui a vu arriver Mieux Sec.
C'était Dominica
ouais. Diablo Gom, Mendelssohn, etc. Emma, ça chantait en anglais.
Alors, il y avait quelques groupes dans le label Lithium qui étaient des groupes qu'on peut considérer comme anglophone, Perriot et Emma et d'autres. Très peu, en effet, c'était une minorité, mais Vincent Chauvier aimait beaucoup aussi le rock anglophone. Je pense qu'il y avait une frustration de sa part et qu'il avait envie de signer des groupes comme nous, justement, pour élargir son spectre et aussi donner un côté plus rock à son catalogue.
Mais vous avez arrêté l'anglais, donc, après le groupe Emma?
En fait, moi, j'ai jamais été très à l'aise avec l'anglais.
C'est ça. D'accord.
C'est une langue que je maîtrise imparfaitement, et donc, très vite, je me suis mis à écrire en français.
Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans la musique à ce moment-là?
Ah oui, ça a changé. Le texte est passé au premier plan. Auparavant, le texte était juste arrivé au dernier moment et épousait le yaourt que j'avais écrit. C'est-à-dire le yaourt, c'est une langue inventée,
oui,
en fait.
Oui.
Donc voilà, mais en fait, je portais assez peu d'attention au texte.
À ce qui se disait, d'accord.
Voilà, alors qu'aujourd'hui, le texte est essentiel dans nos chansons. Mais c'est pas le seul élément, hein, la musique l'est aussi. Mais...
Entre Emma et Institut, il s'est passé quand même quelques années.
Oui, parce qu'il faut trouver, la forme que l'on a envie de donner à ces chansons. Moi, j'ai écrit beaucoup de chansons entre 2000 et 2011.
Ouais.
Et heureusement que j'ai rien publié entre 2000 et 2011, parce que ça aurait pas été... Enfin, je pense que j'assumerai plus du tout aujourd'hui ces chansons.
Mais qu'est-ce que vous avez fait entre 2000 et 2011? Bon, vous avez écrit des chansons, mais par ailleurs, il faut bien vivre.
Ah bah oui, j'ai une activité en parallèle, bien sûr. Donc je m'occupe d'un festival de cinéma à La Rochelle.
Donc c'est le festival de La Rochelle, d'accord.
La Rochelle Cinéma.
Oui, je vois très bien ce que c'est. Dans lequel vous vous êtes produit aussi à ce moment-là?
Produit.
Mais je sais pas.
Avec Institut.
Avec Institut ou avec.
Vous mélangez pas les
choses.
Non.
Enfin, je peux collaborer de façon un peu occasionnelle, oui.
Est-ce que vous avez eu peur à un moment donné d'arrêter la musique? Que rien ne vienne, en fait?
Pour moi, c'est inenvisageable d'arrêter la musique. J'ai toujours écrit des chansons. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Donc, c'est pour ça que je fais peu de concerts, parce qu'on a aussi peu de temps pour faire des concerts. Je préfère me concentrer sur l'écriture de nouvelles chansons, sur la production de nos albums, et les concerts, qui sont pour moi quelque chose d'assez frustrant, finalement, parce que on tourne dans des conditions un peu précaires aussi. Donc, j'aime autant évacuer cet aspect et me concentrer sur l'essentiel.
Vous pourriez tourner à l'étranger avec l'Institut français, justement, vous qui vous appelez Institut.
Exactement.
Mais vous n'avez pas tenté le coup.
Non, alors on n'est pas très entouré, s'il faut dire, mais ce serait une piste en effet envisagée. Ouais.
Vous tournez avec l'Institut français, vous, Kabat-Zi?
Ça nous est arrivé.
Ouais, comme quand les périodes de cirque aussi, c'était l'Institut français à aider.
Aussi, ouais. Non, c'est assez génial ce qu'il faut. Enfin, même les alliances françaises aussi, on a aussi beaucoup travaillé avec eux. Et c'est souvent des super souvenirs, puisqu'on arrive à 8000 km de chez soi, dans une atmosphère française, mais pas du tout en fait, dans une architecture souvent un peu précaire. Et on joue de manière un peu précaire, mais avec des gens qui ont une réelle volonté d'écoute et de passer un moment. Donc c'est assez génial.
Vous pourriez vous passer complètement de faire des concerts, en fait, Arnaud?
J'aimerais refaire des concerts, mais dans des conditions plus acceptables.
Ça veut dire quoi?
Dans des salles peut-être différentes de celles dans lesquelles on a l'habitude de jouer. Peut-être, on évoquait tout à l'heure les scènes nationales. Alors évidemment, c'est pas ce type de salle, mais peut-être des théâtres ou peut-être des galeries d'art contemporain. En effet, ce serait d'autres réseaux que ceux auxquels on a l'habitude de s'adresser.
Tout à l'heure, on demandait à Olivier de Kabat-Zi s'il avait le sentiment de faire de la musique engagée. Est-ce que vous avez ce sentiment-là également?
J'aurais tendance à répondre un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est dans un climat politique qu'on ne peut pas ignorer et qui nourrit en tout cas les chansons d'Institut. Donc effectivement, on réagit face à ce contexte, surtout aujourd'hui, qui est quand même un peu compliqué. Mais après, il n'y a pas de discours politique affirmé. On ne peut pas dire, voilà, c'est des chansons de droite, des chansons de gauche. C'est pas du tout. C'est assez confus. Et d'ailleurs, je nourris aussi de cette confusion, parce que c'est quelque chose que l'on peut tous comprendre, je pense. Et donc non, il n'y a pas de discours politique réellement engagé, en effet.
Mais vous, comment vous vous êtes construit politiquement?
Alors moi, j'ai fait des études de sciences politiques. J'ai une conscience politique assez tôt. J'ai rédigé un mémoire sur un anarchiste russe, donc ça m'a toujours intéressé. Et j'ai toujours eu une sensibilité de gauche, mais cette sensibilité ne se ressent pas dans nos chansons.
Et vous, comment vous êtes construit politiquement, Olivier, pour Kabat-Zi?
À la fac de lettres, Rennes 2. voilà.
Et encore un point commun.
Ah ouais, encore un point commun. Oui, c'est vrai.
Rennes 2 et des après-midi entiers dans la rue, et là on rencontre à manifester, je veux dire. On rencontre des gens, ça se passe quelques années et évidemment ça marque, quoi. Après, je venais pas de n'importe où non plus, enfin je viens d'un milieu très ouvrier, agricolo ouvrier, on va dire. Donc forcément, on forge une conviction politique, quoi.
On va tout de suite rentrer dans la data avec vous. Peut-être que vous pourriez nous présenter ce titre, Arnaud.
C'est une chanson sur un malentendu. Donc c'est une histoire d'amour naissante, mais entre deux personnes qui n'auraient pas normalement dû se rencontrer. On peut la résumer comme ça, avec une dimension technologique assez importante, en effet. Donc là aussi, on est dans l'aliénation, dans l'envahissement en fait. Du coup, de la data. Après, qu'est-ce que ça veut dire la data ? Effectivement, on peut s'interroger hein, sur sa signification, mais c'est sur cette forme d'envahissement et de folie collective. En fait, c'est un peu la thématique, mais avec beaucoup d'irrision aussi. Hein.
Il y a beaucoup d'irrision.
La dérision est très présente dans nos chansons.
Tout voilà. À fait. S'il y avait une dimension politique, elle serait dans le cynisme.
Eh bien voilà, c'est la fin de Côté Club. Merci Institut, l'effet waouh des zones côtières est sorti vendredi, tout comme Burus, signé Kabadzi. Merci à vous deux. Kabadzi, on pourra d'ailleurs les retrouver jeudi en live sur Culture Box et le 13 mars au Arte Open Stage Festival. Marion ?
Hot Milk, c'est le titre du premier EP de Spiltab. Il est dispo sur toutes les plateformes.
Merci à Stéphane Le Guenec qui signe la réalisation et la technique ce soir, Grégory Wallon. Merci à Marion Guilbeault, Virginie Rouzic, Alexis Goyer pour la programmation. programmation avec la collaboration de Margot Ter. Demain, dans Côté Club, un polar punk avec Karim Berouka, c'est l'ex Ludwig von 88, et programme rap acoustique pour Fiskara, un activiste de la scène stéphanoise. Et vous, Marion ?
Direction le Québec avec les chansons contrastées de Julien Sago, l'ancien batteur du groupe Carquois.
Voilà, Côté Club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir, à demain.
Oh, c'était formidable.
Côté.
Oui.
Club.
Bye, bye.